Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste, content d'être avec vous pour ce troisième épisode d'une série où je vous propose de redécouvrir la Bible à partir de ses textes les plus bizarres et insolites. Avez-vous déjà entendu l'histoire de Sodome et Gomorre? Ce sont parmi les pages insolites de la Bible les mieux connues. Mais est-ce que vous connaissez qu'est-ce qui se passe tout de suite après la destruction des villes? Non? Oui, il y a peut-être la femme de Lot qui va se retourner et devenir une statue de sel, mais tout de suite après, il y a quelque chose d'encore plus intéressant, et c'est ce qu'on va s'attarder à ça, c'est autour du patriarche Lot, et qu'il est neveu d'Abraham, et son rapport à ses deux filles. Sans trop vous en dire, ben, disons qu'on va parler, encore une fois, d'alcool et de sexualité, mais aussi de questions de société importantes comme le rapport entre les différents peuples, les différentes cultures, races, religions, vivant dans un même pays. Mais avant tout, quelques réactions d'auditeurs. Pour rendre notre émission un petit peu plus interactive, j'aime bien commencer par un temps où je recueille vos réactions, vos commentaires, vos questions pour donner un peu d'eau au moulin. Dans les commentaires reçus cette semaine, il y a Gabriel de Montréal, je vais vous retransmettre un peu qu'est-ce qu'il me disait. Il disait qu'il était temps que quelqu'un s'attarde aux récits insolites de la Bible. Il dit que ces histoires pas très catholiques posent question aux lecteurs de l'Ancien Testament. Et il dit qu'il ne sait jamais trop comment les comprendre et pourquoi ils se retrouvent dans la Bible. Il a hâte d'entendre la suite. Bien, merci pour votre commentaire, Gabriel. En effet, j'ai rencontré aussi une autre personne, je vais vous dire son commentaire, qui, lui, dans une conférence que j'ai donnée cette fin de semaine, il est venu me voir et il tenait le même genre de discours. Il disait que, dans le temps, alors qu'il était plus jeune, les frères qui étaient ses professeurs lui disaient de laisser la Bible aux spécialistes, que c'était pas pour tout le monde, il fallait pas lire ça. Puis, il se rend compte aujourd'hui que, comme chrétien, pour mieux comprendre sa foi, ben, il n'a pas le choix qu'ouvrir sa Bible et de la lire par lui-même. Puis pourtant, lorsqu'il le fait, il est toujours étonné de voir qu'il y a parfois un contenu violent et sexuel dans ses histoires bibliques, puis ça lui pose question. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on retrouve ce contenu explicite dans la Bible? En tout cas, on va voir ça au cours de la série, mais personnellement, moi, je dois vous avouer que j'aime beaucoup le côté humain des personnages de la Bible. Surtout les hommes dans l'Ancien Testament, là, ils sont très humains. Ils ont leur grandeur, mais ils ont aussi leurs limites. Et Dieu continue à entrer en relation avec eux malgré ses limites, puis même des fois, c'est dans ces limites-là qu'il vient les chercher. Alors, ils ne sont pas parfaits, mais Dieu continue à faire un bout de chemin avec eux. Puis moi, je pense que ça me donne un peu d'espoir que nous aussi, malgré nos propres limites, mais on peut entrer en relation avec lui encore aujourd'hui. Enfin, un dernier commentaire, plus spécifiquement sur l'émission, la dernière émission, qui nous vient d'Alain, qui est notre technicien ici, qui a réfléchi au contenu de cette émission-là depuis le temps, et il disait, bon, on parlait de l'histoire de Noé et de ses fils. Je vous rappelle brièvement ce récit-là. Dans ce récit-là, un des fils de Noé va voir la nudité de son père, alors que son père est inconscient suite à un abus d'alcool. On avait parlé d'une hypothèse que l'expression « voir la nudité de », c'était une expression spécifique, ça, dans la Bible, on voyait ça dans le livre du Lévitique, qui suggérait un acte d'inceste. Parce que dans ce livre-là, ben, à chaque fois qu'on entend l'expression « voir la nudité », ça parle d'un inceste. Mais ce qu'Alain souligne, c'est que dans le texte, tout de suite après, le texte fait beaucoup, beaucoup de cas de montrer dans le détail comment les deux autres frères vont recouvrir leur père en reculant de dos avec une couverture, puis ils veulent tout faire pour ne pas voir la nudité de leur père, de façon littérale. Alors, ce détail-là suggérerait que la faute du premier enfant là, de Noé, qui a vu sa nudité, serait littéralement de voir la nudité de son père. Bon, alors, mais il avoue que la seule petite question par rapport à cette hypothèse-là, c'est comment ça se fait que le père réagit si violemment, puis pourquoi est-ce qu'il va maudire cet enfant-là, etc. Mais le détail nous suggère que peut-être que c'est la bonne interprétation à faire. En tout cas, dans la Bible, c'est comme dans la vie, hein, souvent, on a plus de questions que de réponses, mais parfois ces questions-là sont encore plus intéressantes que les réponses. Les réponses sont toutes faites, sont finies, alors que les questions, ben, ça nous invite à cheminer, à continuer à réfléchir. Alors, ben, je nous invite à continuer à réfléchir sur ce texte-là. Peut-être qu'on avancera encore un peu. Mais merci à tous ceux et celles qui nous ont contactés. N'hésitez pas à le faire vous aussi. Pour nous écrire, je vous rappelle que par Internet, c'est ce qu'il y a de plus rapide, auditoire@radiovm.com, auditoire@radiovm.com, mais vous pouvez aussi nous contacter à la station, soit par le téléphone ou par lettre, aux adresses et téléphones habituels de la station. Alors, on va venir au sujet du jour. Je vous rappelle, après Sodome et Gomorre, Lot et ses filles. Alors, notre sujet du jour. On se retrouve toujours dans le livre de la Genèse. On va aller au chapitre 19, pour ceux qui ont le livre à côté d'eux, vous pourrez lire le texte et le suivre. Vous allez voir, avec ce récit-là, on va comprendre un peu pourquoi la Bible a été mise à l'index pendant un certain temps. Parce que voulez-vous, il y a des scandales sexuels en la lisant, on regarde ça et on dit « Mon Dieu, ça n'a aucun sens ». Bon, d'abord, le récit de Sodome et Gomorre, c'est un des plus troublants sur le sujet. Je vais le résumer parce que je veux plutôt qu'on s'intéresse à sa suite, qui est moins connue, mais je vous jure, tout aussi intéressante. Bon, Sodome et Gomorre, ça commence avec une rumeur que Dieu entend, de crime qui s'y fait, puis ça parvient jusqu'à Dieu, puis Dieu il décide de voir qu'est-ce qui s'y passe. Petite parenthèse, il faut se rappeler que Sodome et Gomorre, ceux qui vivent là seraient des descendants de Cam et de Canaan, les personnages dont on a parlé la dernière fois, qui étaient les fils de Noé qui ont commis la faute. Alors, leurs descendants vivent dans cette région-là. Est-ce qu'ils vont se comporter comme leurs ancêtres? Bon, Dieu décide d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Il envoie deux anges. Il les envoie sous forme d'hommes. Alors, dans le fond, c'est deux hommes qui vont à Sodome, mais c'est aussi deux anges. Lot, qui est le neveu d'Abraham, les accueille chez lui. Mais les hommes de la ville, des plus vieux aux plus jeunes, veulent faire de ces visiteurs leur objet sexuel. C'est là que ça se corse. Lot, lui, comme solution, parce qu'il ne veut pas leur offrir ses visiteurs, ben, offre plutôt ses filles, qui sont encore vierges. Les hommes de la ville les refusent. C'est pas ce qui les intéresse, ils veulent les deux hommes qui viennent d'entrer. Et ils s'en prennent à Lot. Les deux hommes, qui sont des anges, mettent Lot à l'abri en fermant la porte rapidement et frappent de cécité les gens de la ville. Il n'y a plus personne qui peut voir et ils n'arrivent plus à trouver la porte pour entrer. Alors, les anges vont conseiller à Lot de s'enfuir avec sa famille. Suit alors la destruction de la ville par le feu, le soufre qui provient du ciel. Et après l'anéantissement de Sodome et Gomorre, ce qui reste, c'est la petite famille. Lot, sa femme, ses deux filles, qui sont parties dans la campagne. Or, on leur avait averti de ne pas se retourner, parce qu'il allait avoir une conséquence, et la femme de Lot s'est retournée, elle s'est retrouvée en statut de sel. Suite à tout ça, Lot monta dans un endroit qui s'appelle Soar pour loger à la montagne, et ses deux filles l'accompagnent. Alors, on va voir justement qu'est-ce qui va arriver avec ces deux filles. Voici la suite de l'histoire. Ça se retrouve dans le livre de la Genèse, chapitre 19, les versets 30 à 38. On écoute ça.
Lot monta de Soar pour loger à la montagne, et ses deux filles l'accompagnaient. Il craignait en effet d'habiter Soar, et il logea dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aînée dit à la cadette, « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous selon la coutume du pays tout entier. Allons, faisons boire du vin à notre père, et nous coucherons avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint coucher avec son père, qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Or, le lendemain, l'aîné dit à la cadette, « Vois, J'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et tu iras coucher avec lui. Nous aurons donné vie à une descendance issue de lui. » Cette nuit encore, elles firent boire du vin à leur père. La cadette alla coucher avec lui. Il n'eut conscience ni de son coucher, ni de son lever. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils qu'elle appela Moab. C'est le père des Moabites d'aujourd'hui. La cadette, elle aussi, donna naissance à un fils qu'elle appela Ben-Ami. C'est le père des fils d'Ammon d'aujourd'hui.
Alors, dans ce court récit, il y a beaucoup d'éléments, moi en tout cas je pense, qui sont en commun avec celui qu'on a abordé dans le dernier épisode, celui de Noé et de ses fils. Dans les deux cas, il y a un père de famille qui est ivre, tellement qu'il en devient inconscient. Dans les deux cas, il y a des enfants qui vont transgresser un interdit sexuel avec ce patriarche. Et le récit se termine en indiquant quels peuples sont issus de ces actes qu'on peut qualifier de pervers. On pourrait dire, suite à une première lecture, qu'il y a des sérieux problèmes de boisson, de sexualité débridée dans la Genèse, en tout cas. Mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Regardons attentivement cette histoire de Lot et de ses filles. Ce groupe-là, ils viennent pourtant d'être sauvés de la destruction de la ville qui était condamnée à cause, justement, de leurs mœurs sexuelles déviantes. Alors, on vient de les sauver, Dieu vient de les sauver, eux. Puis pourtant, ils vont commettre eux-mêmes l'inceste. On pourrait penser, est-ce que ça n'aurait pas été préférable que cette famille meure à Sodome avec les autres, puisqu'ils gardent le même genre de comportement, ils ne semblent pas avoir compris, ou au moins que les filles restent célibataires, ou tout simplement qu'elles épousent des hommes qui venaient d'un autre peuple, tout simplement. Ce sont elles, en tout cas le texte semble très clair sur ce point, c'est le plan des filles, c'est elles qui sont responsables de ce plan, c'est eux qui vont le mettre en scène. Pourtant, Lot lui-même semble pas très perspicace. Il se fait jouer le même tour deux soirs de suite sans s'en rendre compte. En tout cas, c'est pas fort ni pour lui ni pour elle. La clé de la compréhension de ce texte-là se trouve dans les derniers versets. Bon, ces versets-là nous apprennent qu'il va y avoir des descendants de cet acte sexuel, puis on va les appeler les Moabites et les Ammonites, deux peuples que le peuple hébreu connaît très bien. Puis cette histoire, je vous le dis, est sans doute racontée pour marquer la différence de mœurs entre les Hébreux et les Moabites et les Ammonites. Cette histoire nous parle de l'origine qui est donnée par les Hébreux aux Moabites et aux Ammonites. Alors, ils essayent de nous raconter, ils viennent d'où ces peuples-là. Puis, ils ne nous montrent pas ces peuples-là sous leur meilleur jour. On va voir la raison tout à l'heure. D'ailleurs, en passant, l'étymologie des noms des enfants qui viennent de l'union entre le père et les filles ne sont pas anodines. Moab viendrait de Meab, signifiant « fils de mon père », alors que Ben-Ami voudrait dire « fils de mon parent ». Ça sous-entend, dans les deux noms, que ces enfants-là ont été conçus lors d'une relation incestueuse. Bon, pour aller plus loin, allons voir c'est qui ça, les Moabites, puis c'est qui les Ammonites. Les Moabites, c'est un ancien royaume qui se situait de l'autre côté de la rivière du Jourdain par rapport aux Hébreux. Alors, c'est sur la rive est, au nord un peu de la mer Morte. Aujourd'hui, ça serait la Jordanie qui est là. Les Moabites ont dû faire face à l'arrivée des Hébreux sortis d'Égypte qui arrivent et ont dû partager le territoire avec 3 des 12 tribus d'Israël. Alors, la tribu de Rouben, Gad et Manassé seraient dans la même région. Certains événements racontés les décrivent comme sans cesse en guerre avec les Hébreux. Ça ne se passe pas bien du tout, la relation entre le peuple hébreu et les Moabites. Par exemple, à la mort d'Akab, un roi d'Israël, Moab, le peuple de Moab, se soulève pour gagner son indépendance. Puis les 3 royaumes, Juda, Israël et Édom, tentent de s'emparer de Moab, qui résiste. Puis le Livre des Rois évoque même le recours chez les Moabites à un sacrifice humain suite à un encerclement militaire de leur région. Alors, la Bible ne les décrit pas de façon avantageuse. Les Ammonites, eux, c'est la même chose, ils habitaient aussi à l'est, de l'autre côté du Jourdain. Eux étaient proches de la tribu de Manassé et avaient pour capitale un endroit qui s'appelle Rabat Ammon. Ils furent presque toujours, eux aussi, en guerre avec les Hébreux. Entre autres, Jephthé, Saül, David vont les battre en plusieurs reprises. Donc, ces deux peuples-là, on les voit dans la Bible, mais on les voit souvent sous un mauvais œil. Un autre élément à considérer, c'est que quand on écrit ces textes-là, on se situe à une autre époque. On se situe surtout à l'époque du retour de l'exil. Et le rapport à ce moment-là nous est décrit dans le livre de Néhémie. On va aller le lire parce que c'est très intéressant. On voit qu'au retour des Juifs après la déportation à Babylone, on a une idée très particulière de ces peuples-là, puis il y a une situation de crise, puis on peut pas laisser passer ça. Alors, pour mieux comprendre le rapport entre ces peuples-là, je vous lis ça. Ça vient du livre de Néhémie, c'est au chapitre 13 et versets 23 à 26. C'est aussi dans ces jours-là que je vis des Juifs qui avaient épousé des femmes ashodites, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlait l'ashodien, et aucun d'eux ne se montrait capable de parler le juif, mais la langue d'un peuple ou d'un autre. Je leur fis des reproches et je les maudis. Je frappais quelques hommes parmi eux et leur arrachais les cheveux. Puis je leur fis jurer au nom de Dieu, « Ne donnez pas vos filles à leurs fils et ne prenez pas de leurs filles pour vos fils et pour vous. » C'est tiré de Néhémie, chapitre 13, versets 23 à 26. Donc, si je récapitule, au retour de l'exil à Babylone, bon, Israël a rebâti son temple et il fait tout en œuvre pour réunifier son peuple. Il veut vraiment retrouver le peuple qui a été dispersé, qui a été écrasé par les Babyloniens. Puis c'est capital pour l'auteur du livre de Néhémie que il ne faut pas se mêler aux autres peuples parce qu'il ne faut pas disparaître. On veut garder notre spécificité. Dans le texte, on parle de la langue, on veut garder notre langue. Et ce qui est l'obstacle à tout ça, c'est le mariage avec les autres peuples, en particulier les Ammonites et les Moabites. Alors, ces mariages-là étaient à prohiber. Donc, à cette époque, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, bien, c'est à cette époque-là qu'on écrit une grande partie de l'Ancien Testament, puis c'est à cette époque-là qu'on transmet cette histoire de Lot et de ses filles. Bien, cette histoire on exposerait l'origine scandaleuse de ces peuples. On raconte ça, on écrit ça pour dissuader les Juifs de cette époque-là de prendre des femmes des autres nations autour, en particulier les Ammonites et les Moabites. Et pour ce faire, ben, on les présente sur le pire jour possible. On dit que c'est des enfants qui sont nés de l'inceste. Alors leur arrière-arrière-arrière-grands-parents, leurs fondateurs, sont nés d'un acte incroyablement horrible. Alors donc, c'est pas une bonne chose de prendre ces femmes-là pour épouses. Donc, je le répète pour que ça soit important. Pourquoi on retrouve ce geste violent, sexuel, du viol de Lot par ses deux filles dans la Bible? Ben, c'est pour décourager les Hébreux qui entendent ou qui lisent ce texte-là de se marier avec des femmes étrangères. Alors, le but, c'est de garder un peuple uni. Maintenant qu'on comprend dans quel but ce texte a été écrit, ben, on va pouvoir essayer de réfléchir sur notre situation actuelle. Est-ce que nous aussi, on a ce réflexe de repli sur soi face aux autres cultures et nations? On va poursuivre cette idée-là après quelques mesures de musique. Vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible avec Sébastien Daune. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ce qui se passe tout de suite après la destruction de Sodome et Gomorre. On a lu le texte de Lot et ses deux filles qui sont sorties de la ville pour donner, et puis ils essaient de donner une descendance à leur père. Alors, les deux filles vont saouler leur père, qui est inconscient, le violer. Et on a vu que le but de ce texte-là était de décourager les Hébreux qui entendent ou lisent cette histoire de se marier avec des femmes étrangères qui proviendraient de peuples descendants de cet acte-là. Alors, dans le but de garder un peuple uni. Maintenant, si on essaye de voir aujourd'hui, nous, si on actualise ce texte-là, qu'est-ce qu'il y a à nous dire aujourd'hui? Bien, moi, je pense que cette histoire et son interprétation, ils posent la question des mariages entre les différentes cultures et ethnies. Une nation doit-elle préserver une pureté raciale à tout prix ou est-il possible de bâtir un pays dans la diversité ethnique? Ben, moi, lorsqu'on voit une crise, le premier réflexe, c'est souvent un réflexe de se refermer sur notre identité. On se referme sur notre groupe, on exclut les autres pour pouvoir survivre. C'était le réflexe des filles de Lot qui préfèrent briser l'interdit sexuel de l'inceste plutôt que se tourner vers d'autres peuples. Curieusement, c'est la même attitude qu'on a vue à l'époque de Néhémie lors du retour de l'exil au 5e siècle. Eux aussi voulaient protéger leur identité en interdisant tous les mariages avec des hommes, des femmes d'autres nations. Bon, une autre attitude pourrait consister à s'ouvrir aux autres. Une ouverture n'irait pas, c'est sûr, sans la perte de certaines traditions ancestrales ou de certaines coutumes. Pour rester vivante, des traditions et des coutumes, pourtant, ne doivent-elles pas se modifier avec le temps? Alors, l'histoire, les mœurs, la culture des descendants de Lot, c'est sûr, ça serait transformé si les filles auraient été vers d'autres maris. Mais qui dit que ça n'aurait pas été pour le mieux? Aujourd'hui, tous les pays modernes doivent apprendre à gérer la cohabitation avec l'intégration des étrangers. Le Québec ne fait pas exception. Depuis quelques années, d'ailleurs, on parle souvent des accommodements raisonnables. Comment conserver sa langue, son identité, sa culture, alors qu'on est en contact avec celle des autres? Traditionnellement, la question se posait au Québec, surtout dans notre rapport entre les francophones et les anglophones. Beaucoup d'efforts avaient été faits depuis la conquête pour permettre aux Québécois de ne pas s'assimiler, de garder leur langue, leur culture, leur religion. Puis maintenant, c'est différent. C'est plutôt le rapport aux immigrants qui pose question. En particulier ceux qui sont d'une religion différente. Puis on va la nommer, en particulier la religion de l'islam. Que de préjugés sont colportés à gauche, à droite, sur leur dos. Oui, ils ont une culture différente. Oui, certains groupes sont plus radicaux, plus extrémistes, et même portent une vision qui nous paraît rétrograde, en particulier sur le rapport entre les hommes et les femmes. Mais lorsqu'on prend le temps de connaître, d'entrer en relation avec eux, surtout avec ceux qui ne sont pas extrémistes, on voit très rapidement qu'ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier. Puis que peut-être même qu'il y a des éléments très intéressants à nous apporter, en particulier au niveau culinaire. Moi, j'aime bien certains plats qui nous viennent du Maghreb. Mais par ailleurs, le Québec a une culture, des valeurs, une tradition. Puis je pense qu'on doit être fier de notre culture. Mais pour ne pas devenir folklorique, il faut aussi accepter d'évoluer dans le temps. On n'a pas le choix. La question du rapport entre la culture demeure très vaste, mais on voit par ce récit insolite qu'elle se pose depuis très longtemps et que peut-être que le repli sur soi ne semble pas être la solution la plus féconde. En tout cas, je vous laisse réfléchir là-dessus, et on en reparlera peut-être la semaine prochaine. C'est déjà la fin de l'émission. J'espère que vous avez fait de belles découvertes, que vous avez apprécié nos réflexions. C'est sûr que c'était un texte qui était assez insolite et explicite autour de Lot et ses filles. Pour aller plus loin, je vous suggère toujours de vous procurer le livre qui est intitulé « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible ». Il y a un chapitre justement qui traite de Lot et ses filles, que j'ai écrit récemment aux éditions Novalis et Médiapôle. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Comme vous voyez, on prend un temps au début de chaque émission pour vos réactions. Et d'ailleurs, je crois que je vais faire tirer une copie d'un exemplaire du livre dont je viens de parler à ceux qui prennent le temps de nous écrire. Entre autres, vous pouvez nous rejoindre par notre courriel auditoire@radiovm.com ou sinon par courrier régulier, je vous rappelle l'adresse, alors on peut nous écrire même si on n'a pas Internet, 4020 Saint-Ambroise. Alors, 4020 Saint-Ambroise, suite 199 à Montréal, H4C2C7. Ou sinon, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 514-382-5913. La prochaine fois, nous allons explorer un texte qui est moins connu, mais combien intéressant. Si j'avais à lui donner un titre, attention, c'est assez choquant, ça serait « Coït interrompu, exécution, prostitution et inceste ». L'histoire de Tamar. On est toujours dans le livre de la Genèse. Si jamais vous voulez prendre de l'avance et lire ça, c'est Genèse chapitre 38, les versets 7 à 26. Vous voulez voir, c'est pas si pire que ça, là. J'ai mis un titre assez scandaleux, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte-là et ça nous donnera l'occasion justement de parler de morale sexuelle. Alors, puisqu'on va lire un texte là-dessus, on va en parler. En terminant, merci à Andréane Laferrière pour sa lecture de la Bible et Alain Primo à la technique. C'était Sébastien Donde, bibliste. À bientôt.